Bienvenue au congrès virtuel de l'EFT 2016. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Notre conférence ce soir s'intitule « Gérer la peur de parler en public grâce à l'EFT ». Qui ne connaît pas la peur de parler devant les autres ? Le trou de mémoire lors d'un examen, la bouche sèche au moment de s'exprimer, le souffle court qui nécessite de reprendre trois fois sa respiration au milieu d'une phrase, ou carrément une bonne petite grippe, la veille du jour J, de manière à être sûr d'éviter soigneusement ce moment. Et si vous vous reconnaissez de près ou de loin dans un de ces symptômes, alors nous avons deux bonnes nouvelles pour vous. De un, vous êtes normal, puisque cette peur touche une immense majorité de personnes, et de deux, ceci n'est pas une fatalité. Il existe de nombreux chemins pour vous aider à faire évoluer cette peur et pour devenir, pourquoi pas, un excellent orateur. Notre conférencier ce soir va nous parler de ce sujet qu'il connaît bien pour l'avoir vécu lui-même de l'intérieur à de nombreuses occasions, mais également en coachant depuis quelques années en groupe et en individuel des personnes dans ce même cas. Hypnothérapeute, praticien en psychologie énergétique, notamment EFT et Matrix Reimprinting, formateur en gestion du stress, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Nérial. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Maria.
Merci d'être là et de nous ouvrir ce congrès sur ce sujet important qui est la prise de parole en public.
Ben écoute, je remercie le congrès de m'avoir convié, je suis ravi, je suis très content d'être là et d'ouvrir ce sujet par une mise en pratique, puisque je suis amené à prendre la parole.
Exactement.
Par devant un public. Hein,
on est à des méta niveaux là.
Voilà, c'est d'autant plus intéressant.
Oui, oui. Alors justement, selon toi, Benjamin, ça concerne qui, la peur de parler en public ?
Alors, cette peur de parler en public, moi j'ai envie de répondre tout le monde précisément. Alors bien sûr, tout le monde c'est un peu vaste, j'ai regardé sur Wikipédia et ça écrivait 75%.
Bon, mm-hmm.
Tout ça c'est pas très objectif, c'est pas très précis, mais à différents niveaux.
Ça me semble représentatif.
Voilà, et à différents niveaux d'intensité, franchement tout le monde. Là par exemple, ben moi du coup la conférence commence, je suis en train de parler et je me rends compte, tout simplement parce que j'observe et que je suis franc et que je suis conscient de ce qui se passe, que j'ai le cardiaque qui s'accélère un petit peu, que parfois sur certains mots je peux buter un petit peu ou que des fois au niveau des idées c'est pas extrêmement clair, même si ça va. Donc j'aurais envie de dire que j'ai une partie de moi qui a un petit peu peur, qui est un petit peu stressée de parler, et puis une autre qui se sent assez confiante parce qu'elle a déjà fait, parce qu'il y a des choses quand même que j'ai préparées, je sais à peu près ce que je vais dire. Et ça va vraiment faire partie aussi du message que j'ai envie d'envoyer ce soir, c'est que on peut parler en public même si on a un peu peur.
Voilà. Oui, c'est important de le dire. N'attendez pas d'être totalement à l'aise avant de vous lancer dans l'aventure.
Oui, et en plus, si je vais même un petit peu plus loin, avant de venir, dans les semaines qui ont précédé ce moment, j'y ai pensé, et à chaque fois que j'y ai pensé, ça m'a un petit peu activé, comme on dit en EFT, j'ai même eu une nuit où j'en ai rêvé, il y avait Noël, je rêvais de ce truc, et quelque part, voilà. C'est quand même de l'appréhension, c'est une appréhension que j'ai envie de qualifier de saine, mais que j'ai ressentie, et qui bouge avec le temps. Hein. Je développerai un petit peu après tout ça, mais c'est quelque chose qui bouge et qui est complètement normal, qui est complètement naturel.
Oui, tout à fait.
Si j'ai ça, je me sens occupé pour continuer tranquillement.
Ben merci pour ce partage et ta franchise.
Et même, j'ai pas envie de rajouter des exemples, parce que j'ai partagé ce thème avec des amis qui sont dans le domaine de la prise de parole en public. J'ai par exemple ma meilleure amie, moi, qui aujourd'hui est journaliste dans une grande chaîne radio nationale, et elle me confiait quand je me suis un petit peu entraîné, quand je lui exposais les thèmes que je voulais présenter, elle me confiait qu'elle, par exemple, pour son oral du bac, donc 17 ans, elle a eu 5 parce qu'elle n'a pas pu décrocher un mot. Alors que c'était une excellente élève et qu'elle connaissait tout par cœur. Elle faisait aussi des compétitions de titation. J'ai un souvenir d'elle en train d'arriver sur ce truc et de dire comme ça, je suis stressée. Elle est partie super vite et elle a gagné l'épreuve. Donc, il y a de l'évolution, c'est vraiment très intéressant et il y a plein d'exemples comme ça.
Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque encore une bonne nouvelle parce que le stress, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Ah oui.
Mais ça, on va en parler.
Et tu m'as demandé aussi, ça concerne qui ? Donc là, bon, j'ai parlé un petit peu de moi, j'ai cité un exemple, mais d'une manière générale, ce qu'on peut retenir, c'est qu'indépendamment du sexe, homme-femme, de l'âge, que ce soit des petits enfants maternels, école primaire, ou des personnes âgées, qui ont une grande expérience de la vie, que ce soit des chefs d'entreprise, des cadres, ou des salariés à un autre poste, peu importe le niveau d'éducation, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de différence, niveau d'études, profession, statut social, je veux dire, ça concerne tout le monde, cette peur.
Et justement, tu l'as déjà un peu touché du bout du doigt, dans quel type de contexte peut-on être amené à parler devant un public ? Un public, quel qu'il soit.
Ouais, il y en a plusieurs des contextes. Les plus fréquents, puis en plus quand on s'approche par exemple d'une période d'examen, c'est les examens, les oraux. Quand on est amené à présenter une présentation devant un jury. Donc ça va être le lycée, mais ça va aussi, il y a beaucoup d'adultes qui font des formations, qui sont amenés à présenter des choses. Donc il y a toute cette notion de préparer les examens. Après, dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise, c'est très très souvent que les gens sont amenés à faire des présentations orales lors de réunions, devant des groupes allant de 4 à 15 personnes en moyenne. Après, il y a tout ce qui est aussi enseignement, formation. Toutes les fois, on est amené à présenter un enseignement devant des gens. Donc là, après, les groupes sont souvent un peu plus grands. Ça peut être 20, 40, 60 personnes. Dans mon familial, j'aime bien, on peut avoir tous à un moment donné dans la mémoire le discours. Le discours dans différents contextes. Soit parce qu'on a soi-même été obligé, j'ai envie de dire, parce que ça peut être une contrainte. Ou bien on a compatit avec quelqu'un qui était en train de penser dans son discours. Donc là, ça va être quoi les discours ? Ça va être pour des baptêmes à l'église, pour des mariages, pour des enterrements, des anniversaires. Voilà. Et puis au niveau des contextes, il y a d'autres domaines qui s'éloignent un tout petit peu de la prise de parole, mais par exemple, ça va être chanter. Chanter en public, un karaoké, tout simplement. C'est peut être très divertissant. Puis il y a des gens qui vont dire « Non, moi, j'aime pas chanter.
»
Moi, j'ai des fois envie de leur demander, vous aimez pas chanter ou est-ce que vous avez peur d'essayer d'aller chanter? Je pense que la question mérite d'être posée. Et il y a aussi le monde du sport. Le monde du sport, c'est pas des prises de parole non plus, quoique à haut niveau, ils sont interviewés derrière, mais ils sont exposés à s'exprimer, à exprimer quelque chose, une notion de performance devant les gens. Et là aussi, ça peut être le cours de judo du village, comme les Jeux Olympiques. Donc, les contextes, il y en a plusieurs. Après, bon, un peu moins fréquent, mais ça va être tout ce qui est conférence, comme on fait là, ça va être télé, radio, ou des spectacles. Il y a pas mal de gens qui font des présentations, des one-man shows pour les comédiens, des spectacles d'hypnose et autres. Donc, tout ça, c'est important. Le contexte, il compte énormément. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui va conditionner en grande partie la réaction émotionnelle. Parce que c'est une sortie de zone de confort. C'est vraiment là où on va sortir de ce qu'on connaît, on va sortir du connu, on va sortir de nos repères habituels. Et par rapport à ça, j'ai une anecdote aussi qui m'a marqué. C'est que il y a quelques semaines, j'ai été parler à la radio d'ailleurs de la glossophobie. La glossophobie, je cite la définition, ça veut dire la phobie de parler en public.
D'accord. Et ça porte un nom.
Oui, la glossophobie.
D'accord.
Ça s'intègre, si vous voulez apprendre un nouveau mot. Et la présentatrice de cette émission, qui est aussi une présentatrice télé, nous a confié à antenne, mais c'était par secret, donc je peux le révéler, qu'elle avait peur, qu'elle avait la phobie, elle, de s'adresser devant un public réel. Elle me disait, mais moi, je ne suis pas devant un public.
Parce que c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Ouais.
Donc, elle est dans sa zone de confort dans son studio, et si on la met devant 50 personnes, d'après elle, mais alors je lui ai confié qu'il y avait des techniques et que c'était pas, encore une fois,
une fatalité.
Phobie. Donc le contexte, c'est pas je suis timide ou je suis pas timide, c'est pas j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi, c'est le contexte.
Ouais, c'est vraiment, tout à fait, ça fait tout. Et puis tu parlais de prendre la parole lors d'un baptême, un mariage, un enterrement, ce sont des moments aussi où il y a des émotions qui sont en jeu, qui viennent s'ajouter à ce joyeux petit bal, donc ça va pas forcément nous aider.
C'est ça, l'émotion de peur se rajoute aux autres émotions éventuelles auxquelles on peut être confronté, évidemment.
Et pourquoi a-t-on peur? Est-ce qu'on a vraiment peur de cette prise de parole ou est-ce qu'il y aurait éventuellement autre chose derrière?
Alors autre chose, ça c'est certain, la question pourquoi a-t-on peur? Moi j'aime bien y répondre parce que cette émotion de peur elle a une fonction, comme j'aime bien dire des fois en cabinet ou autre. Si la divine création ou je ne sais qui a créé ça dans notre métabolisme, c'est bien que ça sert à quelque chose. Donc, et quand je pose la question aux gens, mais à quoi ça vous sert cette peur? Vous me dites, ça me pourrit la vie, ça m'embête et tout. Eh ben non. Enfin non, oui, au moment ça pourrit la vie parce que... Mais à regarder un peu plus près, ça a une fonction. Et cette fonction, c'est une fonction de protection. C'est-à-dire que l'émotion, la peur, elle va informer, elle va nous informer... par des symptômes, par une activation du corps, qu'il y a potentiellement un danger. Elle est là pour nous protéger et elle peut créer des réactions physiologiques. La peur est très présente. C'est-à-dire que le mot, parfois, il est un peu tabou, alors, surtout chez les hommes. Non, mais j'ai pas peur, j'appréhende rien. J'appréhende juste un petit peu. J'ai pas peur, mais je me méfie. J'ai pas peur, mais je suis angoissé. J'ai pas peur, mais je suis anxieux. Bon, alors. Juste pour remettre les choses à plat, tout ça, c'est la famille de la peur. L'angoisse, l'anxiété, la crainte, la frayeur, l'incertitude, l'inquiétude, l'horreur, la panique. Alors la panique, là, donc on est dans la crise de panique. En EFT, on parle souvent des niveaux d'intensité, entre 0 et 10. Et puis les gens, ils vont dire, moi je suis à 12 sur 10. Donc là, 12 sur 10, et au-dessus, c'est la panique. Se faire du souci, être tourmenté, préoccupé, tout ça, c'est la famille de la peur. Et les réactions de base, en fait, il y a un truc un peu archaïque, parce qu'on va me dire, oui, prendre la parole, c'est pas dangereux, alors pourquoi on a peur? Eh bien, parce qu'à un niveau archaïque, à un niveau inconscient, c'est un danger. Donc, tu m'as demandé, la peur de quoi derrière? Ben, en fait, quand on s'expose à prendre la parole en public, on s'expose à plusieurs choses. On s'expose déjà à être jugé. Donc, quand on questionne, et moi je peux tout à fait aussi... le ressentir ou le penser, ça, c'est j'ai peur d'être jugé. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ce qu'on va penser de moi va avoir un impact. Ça peut avoir un impact directement dans ma vie professionnelle, directement dans ma vie privée et aussi dans mon image de moi. Donc, c'est quand même pas anodin. Il y a des complexes de comparaison, donc on va être comparé, est-ce que j'ai été mieux ou moins bien qu'un tel ou un autre. La peur du ridicule, et là, ça vient connecter avec un sentiment qui est compliqué à travailler, c'est le sentiment de honte. En fait, quelque part, il y a souvent la peur d'échouer, la peur de rater, et du coup, de pas se sentir au niveau de l'identité, la honte. C'est-à-dire que on met en jeu quelque chose, on s'expose véritablement à un risque, et au niveau inconscient, au niveau de la manière dont on l'interprète, c'est nous-mêmes, c'est qui on est, qui met en jeu. Donc, en fait, on a peur de ressentir de la honte. Et alors la honte au niveau vibratoire, c'est vraiment l'émotion la plus basse sur la chaîne. C'est compliqué. C'est le sentiment d'être déficient en fait, de ne pas être comme il faut. Et derrière tout ça, au niveau archaïque, c'est la peur d'être exclu. L'être humain est un animal de troupeau, un animal social, c'est gris. Ça a besoin pour sa survie, et là on reconnecte avec la notion de danger, de faire partie du groupe. Donc c'est la peur d'être exclu.
Oui, donc d'être ridiculisé, humilié, ça peut être quelque part dans notre cerveau archaïque, et c'est là que se passent les émotions, il y a égale exclusion, égale mort.
Eh ben oui.
Donc oui, il y a danger.
Et c'est ce système archaïque qui n'est pas toujours actualisé, parce qu'on va me dire, non mais si je passe mon oral d'italien à mon bac, je ne suis pas en danger de mort. Alors, rationnellement, pas en danger de mort, mais dans le système énergétique, le système émotionnel, l'inconscient, eh ben, ça connecte à ça. On porte les mémoires de nos ancêtres et des hommes préhistoriques. Donc, voilà.
D'où l'énorme sagesse de notre corps, de ce système magnifique, de provoquer peut-être la petite grippe avant le jour J, voilà, histoire de nous protéger.
C'est ça, exactement.
Ça peut être très embêtant sur le moment, et ça ressemble plutôt à des bâtons dans les roues, mais en fait, c'est une protection.
Une protection qui permet de contourner l'obstacle,
ouais.
Et qui marche sur le moment. Il faut savoir qu'elle marche.
Voilà, c'est la meilleure stratégie sur le moment.
Comme toutes les stratégies d'évitement, elle marche très bien sur le moment. À long terme, c'est autre chose.
Ouais.
C'est pour ça que nous, on va voir comment on peut apprivoiser cette peur. Et moi, c'est vraiment le mot que j'utilise. C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec les animaux, avec les chevaux, et que l'émotion sur laquelle j'ai travaillé le plus avec ces chevaux, c'était la peur. Donc le mot apprivoiser vient de là, mais c'est clairement ça. La peur, elle est là. Elle sera là, elle sera quelque chose. Et on va essayer de l'apprivoiser.
Alors justement, pour l'apprivoiser, une première étape, ça peut être de l'observer.
Oui.
Comment ça se manifeste, cette bête-là, j'ai envie de dire.
Alors, il y a une petite boucle, en fait, en nous, qui connecte trois éléments, en gros, si je vais essayer de faire simple. Et tout ça, c'est relié à notre système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il fonctionne tout seul. Donc déjà, première chose à savoir, c'est pas avec notre petite volonté, c'est pas en disant calme-toi, il n'y a pas de danger, que ça va se calmer. Ça marche pas.
Et on peut très bien le savoir avec son intellect que je sais qu'il n'y a pas de danger, mais dans mes tripes, il y a quand même quelque chose qui dit il n'y va pas.
C'est ça, c'est pas le même service.
Ouais.
Il y a le cerveau logique qui va dire calme-toi, bien sûr, et le service de l'émotionnel, des instincts primaires qui s'emballe quand même. Donc, ça fonctionne tout seul, ce système nerveux. Il est connecté directement avec le contexte, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'environnement, et connecté aussi avec un champ de pensée. On va parler de cognition, les pensées. Hein. Donc là, il paraît qu'on en aurait 90 000 par jour. Je pense que quand on est activé principalement par un événement comme une prise de parole, on doit pouvoir passer à 110 000. Je ne sais pas si on les a vraiment compté, ceux qui disent ça, mais enfin, en tout cas, ça donne une idée.
Je vois difficilement qu'on pourrait, mais oui.
C'est plus que la 5G.
Ça paraît logique.
Ces pensées vont activer le corps, le système nerveux. En fait, pour parler du système nerveux autonome, moi je donne une petite métaphore. C'est comme s'il y avait deux branches dans le système nerveux. Il y a l'accélérateur, on va appeler le système nerveux, la branche du système nerveux sympathique. Et puis il y a le frein, ça c'est le système parasympathique. Dès que on ressent l'émotion de peur, on appuie. C'est comme si on appuyait sur l'accélérateur du système sympathique. Et là, il y a des manifestations physiologiques. Je donne un exemple précis. Une pensée, bon sang, mon intervention orale est dans 3 jours. Boum. Activation, on appuie un petit peu sur l'accélérateur. Au niveau physio, il y a une accélération du rythme cardiaque. Et là, il y a plein de symptômes en fonction de l'intensité.
Mmh.
Alors, les symptômes habituels. Le souffle court, manque de salive, les mains moites. Et en fonction du niveau d'intensité, on va monter à des tremblements, à des rougeurs, à... Même après, si c'est vraiment un très niveau d'intensité, carrément une attaque de panique. Hein. Et ça va être connecté après avec des comportements. Donc notre corps va réagir au niveau comportemental, ça va être la manière de s'exprimer, la manière de parler, la manière de bouger aussi. Hein. Et parfois des symptômes carrément physiques, maux de ventre, nausées, envie de vomir, diarrhée, et j'en passe quelques-uns. C'est vraiment la boucle de manifestation de cette peur qui active le stress, voilà, des pensées, réaction physiologique, comportement. Voilà un peu comment ça fonctionne si je veux essayer d'être simple, quoi.
Oui. Et ce qui est malheureux, c'est que ces comportements qui se mettent en place, enfin ces réactions, qui en fait sont là pour nous protéger contre ce danger présumé, ça va en même temps couper court à nos capacités intellectuelles, ça va couper le préfrontal, et on perd nos ressources, en fait, dans cet état-là.
C'est ça, parce qu'en fait, au niveau archaïque, toute l'énergie passe dans les jambes pour pouvoir fuir, attaquer, ou, si on ne peut pas ni fuir ni attaquer, se paralyser.
Voilà.
Donc en fait, c'est comme si, parce que bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est comme si tout le sang descendait dans les jambes et dans les bras, prêt à vraiment agir avec le corps.
Combattre l'ennemi qui est là.
Pour pouvoir être en réflexe. Alors qu'en fait, effectivement, on a besoin de nos capacités cognitives, d'un certain calme, pour être à la hauteur. Et il y a toute une chimie aussi qui se met en branle. C'est-à-dire que il y a des sécrétions d'hormones, clairement. Donc là, on est dans l'adrénaline, dans le cortisol, quand on est plutôt dans le stress chronique, les périodes de préparation d'une prise de parole. Et sur le moment, c'est grossement d'adrénaline, qui sont encore une fois dans une fonction, de nous permettre d'être réactifs. Alors, en général, dans un oral, dans une prise de parole. On ne peut pas fuir, sauf quand on a eu la grippe. On ne peut pas attaquer, ce n'est pas vraiment le but. Donc, ce qui est redouté, c'est cette forme de paralysie, ce freeze.
Ouais. Hein,
et qui fait un peu le trou de mémoire aussi.
Le blanc.
Voilà. Alors, des mots répétitifs.
Ouais.
Ouais. Et puis, peut-être même des fois, on n'est pas vu souvent, mais carrément le malaise vagal. Hein.
Oui, voilà. Ça peut aller jusque-là. Ce qui s'approcherait peut-être de la fuite. Sur le
oui,
moment.
Exactement. Ça serait vraiment.
Alors, dans ton expérience avec tes clients, les personnes que tu accompagnes pour ces problèmes-là, quand cette peur est-elle la plus gênante? Est-ce qu'il y a des moments où elle est plus forte qu'à d'autres?
Oui, on peut découper vraiment deux grandes périodes. Quand on sait qu'on va avoir un événement, il y a toute la période préparatoire. Toute la période préparatoire, ça va être les jours, les semaines, les mois qui précèdent. Et là, on va être un peu dans des cas de stress chronique avec des pensées qui reviennent. Les symptômes, ça va être par exemple des troubles du sommeil. Hein, les gens peuvent faire des insomnies, mal dormir. Ça, c'est très fréquent. J'entends vraiment ça beaucoup. Le niveau d'anxiété, l'anxiété, ça veut dire la peur du futur. Hein. Puis là, on est en train de parler de la période préparatoire. Donc là, clairement, en fait, au niveau physio, c'est des gens qui vont souvent être un petit peu en excès de cortisol. Du coup, il y aura des petites techniques pour les aider dans cette période.
Mmh.
Après, il y a juste avant l'intervention, quand on s'en rapproche.
Ouais.
Donc, c'est le matin, et puis on se lève, et l'intervention est à 14h. Ou c'est à 16h.
Bon. Voire la veille aussi.
Voire la veille.
C'est demain.
Voilà. Plus on se rapproche, en fait, et plus c'est fort. Plus les pensées sont précises, et donc la nervosité, le niveau de tension musculaire. Alors, tension musculaire, donc on peut avoir des petites douleurs. Encore une fois, c'est ce rythme cardiaque qui s'active à chaque fois qu'on y pense. Si par exemple, après, on arrive au niveau du contexte, donc là, carrément, l'arrivée au lycée, hein, pour les jeunes, l'arrivée dans...
Organiser les transports aussi, hein, c'est pas ce genre-là qu'il faut que la voiture tombe en panne.
Ah, mais exactement. Ouais. Alors, tout ça, c'est vraiment des aspects qui sont hyper importants à prendre en compte.
Ouais.
Hyper importants. Et moi, j'ai fait, par exemple, des coachings en Guadeloupe, hein, Dom-Tom, pour préparer les oraux. Et ben, tout l'avion, tout ça, le fait d'être dans une autre ville, comment on va faire, le métro, tout ça, c'était des facteurs de stress.
Bien sûr.
Et si on avait, quand on travaille en EFT sur ça, c'est tout un tas d'aspects à prendre en compte.
Oui.
En fait, grâce à l'EFT, on va pouvoir déplier tous les aspects qui conditionnent le stress. Donc là, on est juste avant l'intervention. Et puis alors après, il y a au moment, à l'instant.
Le feu de l'action.
C'est-à-dire, vous avez la parole. Et là, j'ai envie de dire dans 100% des cas. Donc c'est pour ça aussi que nos auditeurs peuvent se détendre. Il y a une montée... Il y a une sécrétion d'adrénaline, il y a une montée, une élévation du rythme cardiaque, il y a des petits symptômes. Et quand c'est apprivoisé, c'est ok. Mais quand c'est pas apprivoisé, là, voilà, il y a ces problèmes de respiration difficile avec le souffle court, ce que tu me disais un petit peu tout à l'heure quand tu présentais, vraiment des pics d'accélération du rythme cardiaque et une élocution qui peut parfois être un petit peu chaotique.
Alors, ce qui est génial, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui donnent des conférences sur l'EFT, c'est que justement, c'est le moment de commencer par une petite démonstration pour calmer son propre stress et bien mettre l'auditoire aussi dans le bon état de recevoir les infos.
Ouais.
Donc voilà, ça nous fait la transition. Comment peut-on utiliser l'EFT pour ce genre de situation?
Écoutez, l'EFT, c'est absolument merveilleux, parce que l'EFT active le frein du système nerveux, donc active la branche parasympathique. C'est tout simple. Donc en tapotant et en connectant avec les différents aspects qui conditionnent ce stress, c'est comme un message qu'on va envoyer au corps. Hein, c'est, bon, là, on est dans le bon service.
Mm-hmm.
Là, on est en train de se dire, il faut te calmer, c'est pas dangereux.
Ouais.
On parle au corps.
Ouais.
On parle au système énergétique. On parle au système émotionnel. Et on va lui permettre de bien éclaircir ce qui se passe dans les pensées, de bien déplier tout ce qui se passe, parce que chaque, même s'il y a vraiment des choses communes, et là, je peux proposer une ronde qui peut être un peu commune, qui va parler à plein de gens, mais il y a des petites choses particulières. Ça va permettre d'éclaircir ce qui se passe dans les pensées, leur effet sur le corps et sur les comportements. Pourquoi? Parce que l'EFT, bon, je rappelle un tout petit peu, mais parce que ça me paraît quand même être trois éléments fondamentaux hein, dans l'EFT, c'est poser son attention sur le champ mental.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce que notre tête nous raconte?
Ouais.
Ma tête me raconte, blablabla. Sur le champ émotionnel et sur le corps. Et en tapotant, bah, l'énergie va circuler, va se sentir libre. Hein. L'énergie va être libérée dans le sens d'une circulation. Et l'esprit va s'en trouver apaisé, j'ai envie de dire, juste le niveau qu'il a besoin. Hein, parce qu'on verra, je dirais tout à l'heure, mais que ça peut être ok hein, d'avoir de la peur et d'avoir du stress.
Oui, et c'est pas le moment pour dormir. Hein.
Non, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait.
On n'est pas là pour passer en mode.
Exactement. Non plus. C'est le moment d'être là, quoi, d'être présent, d'être vigilant, d'être vraiment présent. C'est pas. On tapote pas pour se relaxer, pour faire une. Pas à ce moment-là.
Mm.
Pas à ce moment-là. Mm. Donc, en plus, avec le ST, ce sont toujours des phrases qui vont dans le sens de l'acceptation. Donc, il y a aussi une suggestion, vraiment un message, qui dit c'est ok d'avoir peur. Et même si j'ai peur, je m'accepte. Et de fait, ça peut se transformer en allié lorsque c'est un ennemi. Parce que j'ai cité quand même tout un tas de symptômes qui sont désagréables.
Oui. Mm. Et il y a justement cet aspect corporel, les réactions physiologiques, le cœur qui bat, les mains moites, le souffle court, qu'on va pouvoir aussi apaiser.
Ah, mais complètement. Le corps va réagir directement.
Oui.
Le corps va réagir. Et alors en EFT, on peut travailler de différentes manières. Hein. On peut travailler seul et c'est là que du coup on va faire ensemble quelques petites rondes.
Mmh.
Et on peut aussi travailler, parce que ça du coup je ne l'ai pas tout à fait dit tout à l'heure, mais la peur elle va avoir des fois des origines qui sont personnelles. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du côté instinctif, savoir caïque, le fait que ça soit presque un programme, on est né avec ce truc d'exclusion, cette peur de l'exclusion du groupe.
Mmh.
Il y a des gens qui ont subi des traumas quand ils étaient petits, ils ont passé en CP, ils ont récité un truc, ils se sont fumiliés par un prof. Ils sont rentrés à la maison, ils se sont fumiliés par les parents. Et là, ils ont 45 ans, il faut présenter un truc parce qu'ils sont en reconversion professionnelle.
Ouais.
Sauf que c'est même pas la peine, en fait. Rien que d'y penser, ils vomissent déjà.
Mm.
Donc là, moi, je recommande pratiquer avec un praticien pour des cas vraiment lourds.
Mm-hmm.
Et quand c'est des cas un peu plus normaux, seul et avec des bonnes phrases, en comprenant un peu comment ça fonctionne, et je pense qu'avec...
On peut déjà faire pas mal de choses.
Du congrès, tout ça, les gens vont être bien, bien outillés.
On va déjà nettoyer un gros morceau.
Hein. Dans la période préparatoire.
Ouais.
Et les journées.
Ouais.
Je sens que j'ai envie de voir une petite ronde.
Ouais. Voyons comment ça marche et allons-y, faisons-le.
Ouais, on va en faire.
Hein?
On va en faire.
Donc tu nous rappelles la situation. Voilà, que nos auditeurs se projettent aussi. Ça peut être par rapport à un examen, par exemple, ou une prise de parole.
Bah là, ça va être, disons qu'au niveau de, on va dire, prise de parole en public large, dans la période préparatoire. C'est-à-dire que là, on le fait, et puis on peut penser que tous ceux qui ont un examen à venir, ou même...
Voilà, c'est jours, pour passer un oral dans 3 semaines, ou pour présenter quelque chose à la réunion...
Et que ça se traite avant.
Mm-hmm.
On est presque dans l'anxiété. Hein.
Ouais.
On est dans l'anxiété. On peut faire ça.
Ok. Donc on peut évaluer le stress, l'anxiété par rapport à cet événement.
Oui, c'est-à-dire au niveau d'une échelle d'intensité.
Oui.
Je veux dire, voilà. Donc là, ce que je recommande, moi, c'est que les gens peuvent identifier en eux le moment où ça a le stress, quand ils y pensent. Ok. Ce que ça leur fait comme symptôme, ils peuvent donner une échelle d'intensité. Donc, par exemple, ils n'arrivent pas trop à dormir, c'est parce qu'ils y pensent.
Mm-hmm.
Même quand ils viennent au cabinet, ils me disent « Non, mais j'ai le cerveau qui ne s'arrête pas. Hein. Je suis couché, ça ne s'arrête pas. » Ok. Donc, c'est à combien le stress ? Stress subjectif, hein, c'est une évaluation subjective. Par contre, ce qu'on va se rendre compte, ce qui est sûr, c'est que quand ils vont s'endormir, ça va aller mieux.
Oui.
Donc, après, voilà. Première chose, ceux qui veulent évaluer, on peut faire une évaluation. Hein, et ensuite, commencer à tapoter sur le plan karaté.
Mm. Donc, si ça vous parle, si vous avez ce genre d'événement... dans les jours, semaines qui viennent, évaluer votre stress maintenant entre 1 et 10,
voilà.
À combien, et noter peut-être votre symptôme principal pour vous.
C'est ça, exactement. Et là, je vais donner un exemple de symptôme, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est important, il y a 3 choses à checker quand on fait des rondes comme ça tout seul. C'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que ma tête me raconte? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les sensations physiques? C'est où? C'est quoi les symptômes? Et puis, c'est quoi l'émotion?
Ouais.
Et l'émotion, c'est le titre de la conférence. Pas la peur. Si on va aller chercher longtemps, mais j'ai cité tous les mots tout à l'heure, hein, qui, ouais. Cette angoisse, anxiété, panique, les mots qui vont le plus leur parler, les mots eux-mêmes, on leur charge d'informations.
Voilà. Et on peut avoir des intensités différentes pour ces différentes choses.
Oui.
Peut-être qu'on estime l'anxiété à 7, alors que, bon, là, on n'est pas dans la situation, donc la sensation dans le corps, c'est peut-être que 3 sur 10. Voilà. Donc, notez ces 3-là, si vous pouvez.
Et j'ai une autre anecdote sur les intensités, rapidement, avant de faire la ronde, c'est que au dernier coaching que je faisais justement sur des groupes de préparation, les gens passaient à l'oral pendant une minute devant la classe de 30-40 personnes, une minute sur un thème improvisé. Je leur disais, parlez-nous de votre famille, de votre hobby, de ce que vous voulez. Et après, je leur disais, vous étiez à combien en stress? Et j'ai eu plein de fois 10 sur 10, alors que la prestation était impeccable.
Ouais.
Donc, c'est une unité subjective.
Ouais.
Et donc, tout le monde était étonné, en fait. Et c'est pas toujours pareil, ce qu'on va ressentir à l'intérieur. Et puis, la manière dont on va être perçu à l'extérieur. Donc, même si vous êtes à 10 sur 10, ne vous inquiétez pas, on va tapoter.
Allez, allons-y.
Alors, un exemple de ronde. Donc, tapoter sur le point karaté. Et la phrase que je propose, qui peut être évidemment adaptée pour chacun, ça va être « Même si j'ai peur de rater ma prise de parole en public. »
Même si j'ai peur de rater ma prise de parole en public.
Que ma tête me raconte que je ne vais pas être à la hauteur.
Que ma tête me raconte que je ne vais pas être à la hauteur.
Et que ça m'empêche de dormir.
Et que ça m'empêche de dormir.
Je m'aime et je m'accepte.
Je m'aime et je m'accepte.
Profondément et complètement.
Profondément et complètement.
Même si j'ai toute cette peur.
Même si j'ai toute cette peur.
De rater cette prise de parole.
De rater cette prise de parole.
Devant un public.
Devant un public.
Que ma tête me dit, tu ne seras pas à la hauteur.
Que ma tête me dit, tu ne seras pas à la hauteur.
Et que du coup, je ne dors pas.
Et du coup, je ne dors pas.
Je m'aime et je m'accepte.
Je m'aime et je m'accepte.
Profondément et complètement.
Profondément et complètement.
Alors ensuite, on va tapoter sur la tête. Et toute cette peur de rater.
Toute cette peur de rater.
On va tapoter à racine des sourcils. Ça m'empêche de dormir.
Ça m'empêche de dormir.
On respire bien entre chaque tapotement. Sur le coin de l'œil. J'y arriverai jamais.
J'y arriverai jamais.
Sous l'œil. Ça me stresse tellement.
Ça me stresse tellement.
Entre les nez et la bouche, toute cette peur d'échouer.
Toute cette peur d'échouer.
Entre la bouche et le menton, j'endors plus la nuit.
Je n'endors plus la nuit.
Sous la clavicule R27, je suis trop nul.
Sous la clavicule, je suis trop nul.
Je suis trop nul, bah oui, je suis trop nul.
Ah oui, je suis trop nul.
Sous le bras, toute cette peur.
Toute cette peur.
Toutes ces pensées.
Toutes ces pensées.
Ensuite, on va tapoter sur les points de la main. Sur le point du pouce. Toute cette peur de rater.
Toute cette peur de rater.
Sur l'index. Ça m'empêche de dormir.
Ça m'empêche de dormir.
Le majeur. J'y arriverai jamais.
Je n'y arriverai jamais.
L'annulaire. Ça me stresse tellement.
Ça me stresse tellement.
Le petit doigt. Toute cette peur d'échouer.
Toute cette peur d'échouer.
Et le point de gamme. J'endors plus la nuit.
Je n'endors plus la nuit.
Et on pense à respirer. Une petite gorge.
Oui.
Faire circuler cette énergie dans les méridiens. Et puis, si on veut, on réévalue à combien on est.
D'accord.
Si on ne s'est pas déjà endormi, on peut le faire quand on se couche, quand on est dans le bain, quand on est en train de préparer,
simplement.
Quand on a envie d'éviter, et qu'on ne peut pas, par exemple, de préparer. Je pense un peu aux étudiants, parce qu'on se rapproche un peu de la période. Mais... Et puis on peut faire aussi, est-ce que tu veux qu'on fasse une deuxième ronde?
Oui, continuons dans cette voie.
Donc, deuxième exemple de ronde, ça va vraiment dans la même idée, mais c'est pour changer un petit peu, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est que chaque personne va être activée par différents aspects. Donc, on va en faire une deuxième.
Allez,
Alors, point karaté. Même si je suis très stressé.
Même si je suis très stressé.
À l'idée de parler devant ces gens.
À l'idée de parler devant ces gens.
À l'idée qu'ils me jugent.
À l'idée qu'ils me jugent.
Ou carrément se moquent de moi.
Ou carrément se moquent de moi.
Et que j'en ai une boule au ventre.
Et j'en ai une boule au ventre.
Je m'accepte du mieux que je peux.
Je m'accepte de mieux que je peux.
Même si j'ai tout ce stress.
Même si j'ai tout ce stress.
De parler devant ces gens.
De parler devant ces gens.
Je me dis qu'ils vont me juger.
Je me dis qu'ils vont me juger.
Ou se moquer de moi.
Ou se moquer de moi.
Et j'ai une boule dans mon ventre.
Et j'ai une boule au ventre.
Je m'accepte.
Et je m'accepte.
Du mieux que je peux.
Du mieux que je peux.
Sur la tête. Tout ce stress à l'idée de parler devant ces gens.
Tout ce stress à l'idée de parler devant ces gens.
À la racine du sourcil. J'en ai mal au ventre.
J'en ai mal au ventre.
Coin de l'œil. Mais que vont-ils penser de moi?
Mais que vont-ils penser de moi?
Sous l'œil, ça me stresse vraiment.
Ça me stresse vraiment.
Entre le nez et la bouche. Cette boule dans mon ventre.
Cette boule dans mon ventre.
Entre la bouche et le menton. Je vais être ridicule.
Je vais être ridicule.
Sous la clavicule, R27, le point de la peur. Tout ce stress.
Tout ce stress.
Ça m'angoisse.
Ça m'angoisse.
Sous le bras, toutes ces pensées.
Toutes ces pensées.
Puis on va passer au point de la main. Sur le pouce. Tout ce stress à l'idée de parler devant tous ces gens.
Tout ce stress à l'idée de parler devant ces gens.
L'index, j'en ai mal au ventre.
J'en ai mal au ventre.
Le majeur, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?
Mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir penser de moi?
L'annulaire, ça me stresse grave.
Ça me stresse grave.
Le petit doigt. Cette boule dans mon ventre.
Cette boule dans mon ventre.
Et le point de gamme sur la main. Je vais être ridicule.
Je vais être ridicule. Certitude.
Je suis sûr que tout à fait vous allez être ridicule. Alors, je ne sais même pas pourquoi je tapote. C'est pareil. Après la ronde, n'hésitez pas à prendre une petite gorgée. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, une petite gorgée d'eau. Ça vous hydrate le système.
Voilà. Qui permet de faire circuler tout ce qu'on vient de libérer.
D'observer ce qui se passe en vous, d'observer comment vous vous sentez. C'est vraiment le corps qui vous informe. Donc on fait descendre la tension. Commencez au niveau du cardiaque. Commencez au niveau du niveau de tension globale. Bien souvent, là je le sens déjà moi, ça calme quand même.
Oui. Alors j'entends des objections de la part de nos auditeurs qui ne peuvent pas s'exprimer dans les médias, mais ouais, mais là, je suis pas dans la situation. C'est pas l'oral. Donc, ouais, maintenant, je me sens bien, mais je suis pas dans la situation. Tu as ça aussi quand tu travailles avec les gens?
Alors, exactement. J'ai ça aussi. Donc, moi, ce que je fais...
Alors que tout à l'heure, en fait, il n'y était pas non plus. Et pourtant, il y avait toutes ces sensations. Et...
Exactement.
Ça, parce que le cerveau ne fait pas la différence.
Le cerveau ne fait pas la différence, surtout quand on lui demande des petits détails.
Ouais.
Moi, j'aime bien demander des petits détails.
Ouais.
C'est à quelle heure exactement? Ce sera où?
Il y a combien de personnes?
Il y a combien de personnes?
Il y a qui?
Et vous serez comment? Vous serez debout ou ça assis?
Test. Ouais. Tu peux regarder tes notes ou pas?
Voilà, donc là, clairement, ça active. Et en fait, tout ça, c'est de l'exposition, c'est-à-dire qu'on s'y expose psychiquement.
Ouais.
Donc là, on est vraiment encore dans la période de préparation.
Ouais.
Le stress chronique, c'est à l'idée de, pensant, en plein travail sur les pensées.
Et quand tu fais une séance complète en individuel, tu peux vraiment aller gratter ces petits aspects, tous ces détails.
Bien sûr. Qu'est-ce que vous vous dites maintenant là? Qu'est-ce que vous peut-être vous raconte? Et puis je pose des questions comme ça. Donc en s'exposant, en fait, plus on s'expose, et ça c'est largement prouvé, pas que par l'EFT, hein, dans tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, l'exposition répétée permet tranquillement de déconditionner, d'habituer,
c'est une forme
d'habituation.
Ouais.
Donc on, on se familiarise. Mm. On se familiarise progressivement avec ça.
Oui, parce que la plupart du temps, quand on a une prise de parole à faire, on ne peut pas, pendant 3 semaines, y aller tous les jours, aller dans la salle, s'entraîner dans les conditions réelles. Alors que dans notre tête, oui.
Exactement.
On est capable de le faire.
Tu peux voyager.
Voilà.
C'est formidable.
Ouais.
Tu peux voyager dans le passé.
Ouais.
Pour réparer les traumas de prise de parole en public qui se sont mal passés. Mmh. Et tu peux voyager dans le futur pour aller préparer les futures prises de parole. Mmh. En augmentant du coup leurs chances qu'elles se fassent du mieux possible. Clairement.
Mmh.
Tout ça fait sympa.
Ouais.
C'est la troisième bonne nouvelle.
Ouais. Ok. Encore une petite ronde un peu dans ce sens?
Ouais, alors la troisième ronde que je vais vous proposer, elle introduit un petit peu le positif. Hein. Donc là, on a vraiment tapoté sur tout ce qui nous encombre. Hein. Donc, on va y aller, on va tapoter sur le point caractère.
Mm-hmm.
Alors, même si je me sens mal.
Même si je me sens encore un peu mal.
Quand je m'imagine parler devant ces gens.
Quand je m'imagine parler devant ces gens.
Qu'une partie en moi ne se sent pas capable.
Qu'une partie en moi ne se sent pas capable.
Je m'ouvre à la possibilité de faire de mon mieux.
Je m'ouvre à la possibilité de faire de mon mieux.
Et même si je ne me sens vraiment pas bien.
Et même si je ne me sens vraiment pas bien.
Quand je me vois déjà dans cette scène.
Quand je me vois déjà dans cette scène.
Devant toutes ces personnes.
Devant toutes ces personnes.
Que je ne me sens pas trop capable.
Que je ne me sens pas trop capable.
Je m'ouvre à la possibilité.
Je m'ouvre à la possibilité.
De faire de mon mieux.
De faire de mon mieux.
Et pourquoi pas d'en être capable?
Et pourquoi pas d'en être un petit peu capable?
Un petit peu capable. Voilà. Ensuite, on va tapoter sur la tête. Mais ça me fait peur quand j'y pense.
Mais ça me fait quand même peur quand j'y pense.
On va tapoter sur le sourcil. Et c'est bien normal d'avoir peur.
Et c'est bien normal d'avoir peur.
Coin de l'œil. Et si j'ai peur, c'est parce que c'est important pour moi, cet oral.
Si j'ai peur, c'est bien parce que c'est important pour moi, cet oral.
Sous l'œil. Une partie de moi ne se sent pas capable.
Une partie de moi ne se sent pas capable.
Entre le nez et la bouche. Et une autre partie de moi est prête à faire de son mieux.
Et une autre partie de moi est tout à fait prête à faire de son mieux.
Entre la bouche et le menton. Et je me sens mal quand même quand j'y pense.
Mais je me sens quand même mal quand j'y pense.
R27 sous la clavicule. Et si après tout j'en étais capable?
Et si après tout j'en étais capable?
Sous le bras. Parler devant toutes ces personnes.
Parler devant toutes ces personnes.
C'est l'angoisse quand même.
Oh, c'est l'angoisse quand même.
On va passer à la main. On va tapoter sur le pouce. Et c'est bien normal d'être angoissé.
Et c'est bien normal d'être angoissé.
Sur l'index. Parce que c'est important pour moi cet oral.
Parce que c'est important pour moi. Il y a un enjeu.
Il y a un enjeu. Sur le majeur. Une partie de moi ne se sent pas capable d'y arriver.
Une partie de moi ne se sent pas capable d'y arriver.
Le mineur. Et une autre partie de moi est prête à faire de son mieux.
Et une autre partie de moi est tout à fait prête à faire de son mieux.
Sur le petit doigt. Mais je me sens mal quand j'y pense.
Mais je me sens mal quand j'y pense.
Et le point de gamme. Et si après tout j'en étais capable?
Et si après tout j'en étais capable?
Une grande respiration, faire circuler tout ça. Et bien sûr, une petite caméra que vous tournez sur vous, sur votre corps, sur vos sensations, sur votre état intérieur, sur votre météo intérieur. Commencez maintenant.
J'aime bien cette formulation. Que raconte votre tête maintenant?
Oui, parce qu'en fait, quand vous dites, au lieu de fusionner avec vos pensées et de croire que vos pensées sont la réalité, ma tête me raconte que, c'est ma tête me raconte que. Donc c'est une diffusion cognitive.
Mm.
Ça, alors là, c'est. La tête, elle raconte plein de choses.
Ouais.
Elle fait des scénarios, elle est super pour faire des scénarios. Elle crée des films, en fait. Elle crée des films d'horreur. Elle crée aussi des jolis films. Hein.
Oui.
Elle crée des films d'horreur.
Mais je connais pas mal de têtes qui sont spécialisées dans les films d'horreur, quand même.
Ah ouais. Bah oui, c'est clair.
À commencer par la mienne. Bon, super. Alors voilà, dernière évaluation, comment vous vous sentez après ces différentes rondes.
Mm-hmm.
Et ça amène une autre question, Benjamin. On en a un peu parlé, mais comment ça se fait que certains ont plus peur que d'autres?
Là, il y a différents aspects, c'est-à-dire que au-delà de la préparation, comme on fait avec l'EFT, il y a des choses qui sont très concrètes, que j'ai besoin de rappeler parce que ça donne un peu d'objectivité aussi, c'est-à-dire que le côté émotionnel, énergétique, c'est un énorme aspect, mais il y a aussi toute la préparation, hein. Donc, votre préparation orale, elle va être conditionnelle par rapport, en tout cas sa qualité va être conditionnelle par rapport au niveau de préparation. Mieux on est préparé, moins on a peur. Et puis aussi à l'expérience. Alors ça, c'est un peu plus proche de ce qu'on fait parce que l'expérience, c'est le fait d'avoir par exemple déjà fait. Mmh. Donc, l'exposition répétée, le fait de faire plusieurs fois quelque chose.
Mais oui, mais j'ai jamais fait, c'est la première fois.
Voilà. C'est pour ça que quand vous faites de l'EFT, avec votre esprit, vous y êtes un peu. Donc, vous y êtes. Et en plus, comme vous vous êtes entraîné sur vous, vous allez pouvoir, le jour J, vous en servir beaucoup plus d'aisance, de manière presque réflexe.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une sorte de répétition mentale.
C'est une sorte de répétition, c'est ça, exactement.
Qui fait que la première fois ne sera pas la première fois.
Et ben voilà, ouais. Et ben voilà, t'as tout compris, c'est formidable. C'est exactement ça. Alors, ça c'est deux aspects très concrets, préparation et puis l'expérience. Hein. Plus on en fait souvent, moins on a peur. Il y a un autre aspect hyper important, c'est que quand on prend la parole, on est écouté. Par exemple, là, on est écouté, uniquement écouté. Mmh. Mais il y a plein de fois, on est écouté et vu. Mmh. Donc, c'est aussi le regard de l'autre. Et les gens qui sont complexés, pour X ou Y raison, par rapport à l'image qu'ils renvoient, ça va être un aspect supplémentaire. Et là, chaque personne a une image d'elle-même, en fait, différente. Oui. Donc, ça, c'est vraiment un aspect important. Après, il y a tout simplement au niveau des personnalités, la manière dont on s'est construit. Donc, c'est des thèmes qui sont bien plus développés par d'autres de mes collègues et de mes confrères. Mais au niveau de la personnalité, la confiance en soi, le signe de soi, l'affirmation de soi, ce potentiel être là, présent, affirmé dans une communication. Ça dépend de l'histoire de chacun, ça. Ça dépend vraiment de notre vécu, de notre éducation. Et aussi de quelque chose qui est très 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 important, désolé pour tous les superlatifs, mais c'est vraiment très important, c'est les conditionnés.
Ouais. Oui, tu le disais tout à l'heure, si on a vécu un trauma qui peut s'apparenter de ça, effectivement ça va être beaucoup plus facile, mais beaucoup plus difficile à surmonter.
Difficile à surmonter, et puis ça va être aussi des choses à répétition parfois, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est... L'autre, c'est un miroir. Il réagit en fonction de nous. Donc, si dans le vécu, c'est traumatique, c'est des carences, c'est des gros troubles de l'attachement, avec du coup des déficits de ce mirroring, de ce reflet qui est si important dans la petite enfance et tout ça, là, effectivement, c'est ce qui fait que certains ont plus peur que d'autres. Hein. Bon, maintenant, pour apaiser les gens, je ne sais pas si ça les apaiser, mais il y en a qui... Il y en a qui, par exemple, je pense à Jacques Brel, il paraît qu'il vomissait avant chaque concert. Alors que, on peut quand même dire que c'était un homme de scène. Ouais. Donc, il vomissait, donc, effectivement, son poids en première. Ça veut dire quand même que le niveau de peur était assez énorme, le niveau de trac, on appelle ça comme on veut maintenant. Et pourtant, il était dans l'excellence. Donc, quand bien même, c'est très fort, c'est possible.
Mais il n'avait pas l'EFT, le pauvre.
Il n'avait pas l'EFT.
Si qu'est-ce que ça aurait été sinon? Ok, super. Et justement, ça m'amène une autre question. Est-ce que toi, je sais que tu as fait des formations de rhétorique, tu as travaillé avec des professionnels dans ce domaine, est-ce que tu penses qu'il existe des orateurs nés? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est facile, évident, inné pour certaines personnes?
Inné, non. C'est pas inné. Après, ça peut être, comment dire, si on peut être né dans un milieu, avoir vraiment une éducation qui va nourrir toutes les qualités nécessaires.
Qui va nous conditionner pour
un bon orateur. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que moi, les orateurs qui m'influencent parce que j'aime leur manière de parler, ceux que je connais, les profs, et là, du coup, je pense à un ami, justement, qui m'a formé à toute cette rhétorique, qui est quand même pour moi le champion quoi, du domaine, qui fait des interventions télé, radio, des conférences devant plusieurs centaines de personnes, il me confiait que lors de ses premiers cours dans les amphithéâtres ou autres, il était paniqué. Et que quand il sort souvent de ses zones de confort, donc il me dit maintenant, quand je vais dans mes amphis, je suis chez moi. Quoi. Donc le niveau de stress, il est juste à 0 sur 10.
Ouais.
Ça fait des années qu'il le fait. Par contre, quand il crée un nouveau concept sur scène, parce qu'il est aussi un petit peu dans le domaine artistique en parallèle, alors là, c'est la panique. Mmh. 10 sur 10. L'angoisse, aller aux toilettes et tout. Et pour autant, les prestations sont juste géniales. C'est ça que je retiens. Alors, on pourrait dire, est-ce que c'est un orateur né? Je ne sais pas. Il est. Enfin, en tout cas, c'est un excellent orateur. Maintenant, il a peur.
Ouais.
Il est comme tout le monde.
Ouais. Donc, peut-être que, à l'inverse, tout le monde a plus ou moins de travail à faire pour en arriver là.
Ouais.
C'est un parcours, c'est une sorte de challenge pour tout le monde.
Parce
que quand on voit un grand orateur qui passe sur scène, qui tient une salle de milliers de personnes, comme ça, captivé, fasciné, on se dit, ouais, mais pour lui, c'est facile, mais jamais, moi, je pourrais le faire. Mais en fait, c'est un parcours, il y a des choses à mettre en place.
Ouais, et en plus, on croit, notre tête nous raconte que eux, ils sont bons, nous, on n'est pas bons.
Ouais.
Que eux, ils n'ont pas peur, et que nous, on a peur. Mais en vrai, eux, ils ont peur.
Aussi. On n'en sait rien, ouais.
Bah, on n'en sait rien, mais moi, tous ceux que j'ai interviewé.
On ne sait pas s'il a vomi avant de monter sur scène.
Déjà, et quand ils sont francs, en tout cas, moi, tous ceux que j'ai interviewés, parce que je me suis permis d'aller poser des questions, qui peuvent être un peu personnelles, ils m'ont dit, non, mais bien sûr que j'ai stressé, bien sûr que j'ai peur, bien sûr que j'ai le trac. Et là, ça me rappelle cette phrase de Sarah Bernhardt, qui était une comédienne, une grande actrice, hein. Et puis, il y avait une jeune comédienne qui vient la voir et qui lui dit, elle est connue un peu cette anecdote, hein, « Moi, je n'ai jamais de trac sur scène. » Il paraît que Sarah Bernhardt lui a répondu, « Ne vous inquiétez pas, ma petite, ça vous viendra avec le talent.
» Oui, donc, d'avoir un peu de trac, d'avoir quelques battements de cœur en plus, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, et peut-être que ça fait partie du métier.
Mais ça fait partie.
Ouais.
Et c'est pour ça que je parle d'apprivoiser la peur et pas de la neutraliser. Je me souviens d'une cliente un jour qui rentre dans le cabinet et qui me dit « Bonjour monsieur, je voudrais que vous m'aidiez à mettre mes émotions dans un placard. »
Ah.
Alors, je lui ai dit
« J'ai pas de placard comme ça en stock, non.
Ouais, » ouais. Les émotions, elles sont « Waouh !»
Non, elles sont là, comme tu disais au début, ce sont des signaux d'alerte. Et quand ils sont bien réglés, ces signaux, ce sont nos amis.
Ils sont là
pour nous sauver la vie.
Exactement.
Bravo à eux.
C'est de l'information qui sert à nous sauver la vie.
Et si vous voulez couper ce circuit et ne plus avoir de signal d'alerte, ça pour le coup, ça serait très dangereux.
Ça serait très dangereux, exactement.
Ouais.
Ah oui, complètement.
Alors, juste avant de passer aux questions, est-ce que tu as quelques petites astuces quand on est dans le feu de l'action, il y a peut-être du monde autour et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire c'est d'urgence quand on est vraiment dans la situation.
Ouais, alors on va faire une petite ronde de FT d'urgence, mais juste avant, au niveau mental, ce qu'on peut se dire, et si les gens veulent retenir un truc clé là, de cette conférence, c'est que la peur, c'est ce qu'on vient un peu de dire, elle n'est pas forcément handicapante. Elle peut même être stimulante. Donc, déjà, de avoir ça en tête, de dire, bon, non, j'ai peur d'avoir encore plus peur, j'ai peur de rater,
ouais.
Ça va être, ok, même si j'ai toute cette peur, je sais qu'elle peut être stimulante. On parle même de stress moteur. Hein. Et donc, ça, déjà, de se le dire. Ensuite, bien sûr, que à l'instant T, une petite ronde directement, là, c'est impeccable quand on sent que ça monte. On est exposé.
Ouais.
Là, on n'est plus dans les pensées, on y est. On est dans la salle d'attente, on va bientôt passer, on est quelques minutes avant...
On est dans le métro, on se rend à la salle.
Voilà, exactement, on arrive, on ouvre la porte.
On prend 5 minutes dans la voiture, sur le parking avant de monter. Hein?
Ouais, exactement. Donc là, je peux vous proposer une ronde.
Mm-hmm.
Ouais.
Allons-y.
Alors... On va tapoter sur le point karaté. Ok. Même si je commence à paniquer. À l'idée de me retrouver sur cette scène.
Là, tout près.
Devant cette personne, devant ce jury.
Que mon cœur s'emballe. cœurs sont mal.
Et que mes mains sont moites.
Et que mes mains sont moites.
Je m'accepte complètement.
Je m'accepte complètement.
Même si j'ai toute cette panique.
Même si j'ai toute cette panique.
À l'idée de me retrouver dans quelques instants sur cette scène.
On va me retrouver dans quelques instants sur cette scène.
Devant ces gens.
Devant ces gens.
Que je vois là.
Que je vois là.
Et qui me font peur.
Et qui me font peur.
Que je sens mon cœur s'emballer.
Que je sens que mon cœur s'emballe.
Et mes mains transpirer.
Et mes mains qui transpirent.
Je m'accepte comme je suis.
Je m'accepte comme je suis.
Profondément.
Profondément.
Totalement.
Et complètement.
Inconditionnellement.
Et totalement. Et inconditionnellement. Et partout. Et dans toutes les dimensions de moi.
Je me pointe sur la tête. Et je vois tous leurs regards pointés sur moi.
Je vois tous leurs regards qui se pointent sur moi.
Sur le sourcil. Ce silence dans la pièce.
Ce silence dans la pièce.
Coin de l'œil. Moi tout seul devant eux.
Moi tout seul devant eux.
Sous l'œil. Est-ce que je vais arriver à parler?
Est-ce que je vais arriver à parler?
Entre le nez et la bouche. Mes mains sont moites.
Mes mains sont moites.
Entre la bouche et le menton. Ils vont voir, ils vont se rendre compte que je suis stressé.
Ils vont voir, ils vont se rendre compte combien je suis stressé.
Sous la clavicule. Je sens mon cœur qui s'emballe.
Je sens mon cœur qui s'emballe.
Et là, je vous recommande de rester un petit peu plus longtemps sur R27. C'est vraiment un fond de la peur, un arcaïque qui fait beaucoup d'effet. Je sens mon cœur qui s'emballe.
Je sens mon cœur qui s'emballe.
J'ai pas très envie d'y aller, sous le bras.
J'ai pas très envie d'y aller.
Sur le pouce, je vais me mettre à rougir.
Je vais sûrement me mettre à rougir.
L'index, je vois tous leurs regards pointés sur moi.
Je vois tous leurs regards pointés sur moi.
Le majeur. Ce silence dans la pièce.
Ce silence dans la pièce.
La lumière. Moi tout seul devant eux.
Moi toute seule devant eux.
C'est l'angoisse.
C'est l'angoisse.
Le petit doigt. Est-ce que je vais arriver à parler?
Est-ce que je vais arriver à parler?
Le point de gagne. Ils vont voir que je suis stressé.
Ils vont voir combien je suis stressé.
Je vous demande de prendre un petit peu d'eau avec vous, de respirer, de toujours penser à respirer. Et d'observer.
Et t'as dit, comment je me sens?
Comment je me sens maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant? Souvent, ça fait faire signe. Et c'est ok de sentir à nouveau le cœur qui s'emballe derrière, en y allant. Et là, il y a après d'autres petites techniques qui peuvent se rajouter. Hein, qui peuvent se rajouter vraiment à chaque moment. Parce que là, dans ces moments intenses, c'est comme dans un film où chaque scène, elle va... C'est comme si c'est plus dense. Hein. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais chaque moment, chaque pied en avançant, vous êtes dans une salle, vous passez un examen, le fait d'ouvrir la porte, le fait de les voir, le fait de... Enfin, là, après, vous pouvez décomposer chaque moment et... On peut pas donc tapoter comme ça partout sur soi quand on arrive devant un jury. Mais là, il y a d'autres petites astuces quand même que moi je recommande, qui sont assez simples et qui peuvent vraiment aider.
Bah, tu parlais du R27, le point de la peur sous la clavicule. Ouais. Ça, c'est un point. Bon, quand vous êtes sur scène, peut-être pas, mais dans beaucoup de contextes, c'est peut-être pas pour rien que... Instinctivement, on porte la main à cet endroit-là quand on a peur. Hein. Mais ça, c'est vraiment un excellent point d'urgence. Je trouve, donc rien que ça, en attendant votre tour, peut-être, en étant dans les coulisses, et puis penser à respirer.
Ouais, et puis des points d'urgence, il y en a d'autres qui sont faciles, qui sont discrets.
Ouais.
Donc c'est pas mal à savoir.
Eh ben, on va aller écouter les questions, enfin lire les questions dans le chat de nos auditeurs.
Allons-y.
Merci Benjamin pour toutes ces pistes partagées.
C'est un grand plaisir.
Et à tout de suite.
J'espère que ça va aider les gens.
Oui, très certainement. Très certainement. On attend vos réactions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les rondes? Est-ce qu'il vous reste des questions? Comment ça va se passer pour cet examen, cet oral qui arrive, peut-être, pour vous?
Et cette autre prise de parole.
Voilà.
Tout le champ de ce qui existe.
Ouais.
Le contexte possible et inimaginable.
Ouais. Exactement. À tout de suite dans le chat.
Voilà, voilà, le chat est ouvert. Alors, le temps que Benjamin prenne connaissance de vos questions, nous sommes là pour une petite animation.
Une petite chaos.
Animation. Noël qui est avec moi dans la tour de contrôle. Bonsoir Noël.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir Maria. Et voici la première conférence de cette 6e édition Congrès 2016.
Oui,
magnifique conférence.
Super.
Alors on a une...
Allez, un petit détail technique. Quelques personnes nous ont fait part d'un son un peu pas très agréable à écouter. Donc, Benjamin, le temps que nos auditeurs posent des questions dans le chat, peut-être que tu peux raccrocher et rappeler, on va voir si ça s'améliore. C'est au gré des connexions des uns et des autres, on n'a pas la main là-dessus, donc voilà.
Donc, chaque année, on fait gagner des packs pour ceux qui sont là la première année. Vous avez pu le remarquer, il y a un bouton boutique, dans les menus, il y a un bouton boutique qui est apparu dans la journée. Et pour les gens qui seraient intéressés pour acheter ces conférences, chaque conférencier donne un bonus, on appelle ça un bonus. Chaque conférencier fait un cadeau et pour l'achat à l'unité de la conférence, par exemple, de Benjamin, vous aurez la conférence de Benjamin plus son bonus qui est un audio de méditation en format MP3 ainsi que la transcription de la conférence. Et c'est pour ça qu'on fait gagner par tirage au sort. Le tirage au sort a lieu dans toute notre base de données.
C'est simple. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être là en direct, mais si c'est le cas, bien sûr, faites un gros youpi dans le chat.
Voilà. Donc, on va faire gagner des packs. Et le pack, c'est les 14 conférences, plus les transcriptions de ces 14 conférences, plus tous les bonus que nous offrent les conférenciers, que vous offrent les conférenciers. Et chacun des 14 conférenciers offre des MP3, des vidéos, des PDF, des e-books, des produits en tout cas téléchargeables. Et vous avez également des bons de réduction pour pouvoir assister à des événements que donne chacun des conférenciers à un prix préférentiel si vous achetez le pack.
Voilà, et si vous avez très envie d'acheter le pack maintenant et que plus tard dans la semaine vous le gagnez, bien sûr, on vous le rembourse. Donc, ne vous laissez pas freiner par ça.
Bon, voilà. Donc ça, c'est pour ce... On le répétera à chaque conférence parce qu'à chaque fois, on a des nouveaux venus sur ce congrès. Ils ne savent pas forcément tout ça puisqu'on communique sur le fait que c'est gratuit et ça l'est pendant le direct et puis pendant 24 heures. Et ensuite, ces conférences sont retirées et pour ceux qui voudraient les réécouter encore et encore, il y a la possibilité de les acheter. Et tout ça se passe dans la boutique.
Voilà, voilà. Donc,
alors,
fais tourner la tournette.
Madame, voilà, voilà, fais tourner la tournette.
Et nous allons voir qui est notre premier gagnant, donc je répète, d'un pack congrès virtuel EFT. Pack privilège PDF d'une valeur de 157 €. Et il s'agit de Anne. Alors, pour protéger la vie privée, toutes les Anne du chat vont aussi espérer. L'adresse mail de Anne commence par ACT, plus loin le chiffre 70@hotmail.com. De toute façon, on va vous contacter par mail. Il ne suffit pas de lever la main dans le chat.
Voilà, les personnes sont contactées par email et le pack est débloqué dans leur partie mon compte, mes achats.
Voilà.
Et
à la fin des conférences, quand il y aura tout dedans.
Voilà.
Et la deuxième gagnant est également une gagnante. Il s'agit de Christine, dont l'adresse mail commence par CHR, plus loin. Chiffre 823@orange.fr.
Tu fais la publicité pour Orange, là.
Non, je cite l'adresse mail de Christine. je n'y peux rien, elle est chez Orange. Et Anne, elle est chez Hotmail. Pas forcément. Tu crois qu'on va avoir des problèmes avec Orange et Hotmail.
Non, je crois pas. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne connaissent pas le congrès, il y a donc une boutique et dans cette boutique, il y a des packs. Et ce qui change cette année aussi, pour ceux qui connaîtraient, c'est qu'on vend les conférences des années antérieures. On a tout découpé les packs et vous pouvez acheter des conférences de l'année dernière, de 2014, de 2013 à l'unité. Vous avez tout ça dans la boutique. Peut-être que tout n'est pas complètement finalisé. Bertrand, il travaille. Voilà.
Bertrand, il travaille tout le temps. Merci Bertrand.
Merci Bertrand. Et merci Christelle qui, elle aussi, travaille d'arrache-pied pour ce congrès. Tout ça, vous l'avez dans l'onglet boutique.
Ou à côté du chat.
Ou à côté du chat. Bien, je pense que Benjamin aura eu voilà. Le temps.
Benjamin est revenu. Je vais ouvrir sa ligne.
Et là.
Voilà. Ah. Ça y est, tu es de nouveau avec nous. Et là.
Je suis de nouveau avec vous.
Ouais.
Bon. Super. Ok, super.
Alors, qu'as-tu repéré comme question intéressante et pertinente dans le chat? On va essayer d'en répondre à un maximum jusqu'à 20h30 où il faudra libérer la salle.
Ouais, alors j'en ai une. On me demande si ça peut marcher pour la peur d'appeler les gens au téléphone. Alors, je réponds évidemment oui, puisqu'en fait, le gros thème derrière ça, c'est la peur. Donc, c'est la grosse émotion. Donc, évidemment, qu'en faisant des rondes de tapping avant, de téléphoner, bien sûr. Sachant que là où ça va être encore plus efficace, c'est quand vous discernerez les aspects de cette peur, et c'est la peur de quoi derrière le fait d'appeler telle ou telle personne. Hein. Donc, mais c'est le même fonctionnement, exactement. Alors, ensuite, j'ai quelqu'un qui me demande pourquoi tapoter sur l'annulaire. Alors, effectivement, le tapotement sur l'annulaire est sur le même méridien que quand on fait le point de gamme qui est sur la main. Moi, je fais les deux parce que je pense qu'on peut rarement tapoter trop. Maintenant, c'est pas une obligation et puis chaque praticien a aussi ses petites la manière dont il a appris et puis ses petites manies. Hein. Moi, je fais je le fais donc c'est pas très important ça. Alors, par contre, j'ai une question là qui me paraît vraiment intéressante. Il y a Misalbé qui me demande avec la ronde du début. Savoir si on n'ancre pas du négatif dans le cerveau.
Mmh. Ah oui, c'est important, c'est ça.
Et oui, c'est très important parce que l'EFT, enfin, moi je le vis en tout cas comme ça, c'est vraiment une technique de déconditionnement. Alors, il ne s'agit pas d'ancrer du négatif dans le cerveau, mais plutôt de mettre à jour, d'exprimer verbalement ce qui se passe de toute manière dans notre cerveau, en apaisant le système nerveux et en faisant circuler l'énergie dans le corps. Donc, je me sers toujours de l'EFT avec du négatif au début, toujours, parce que c'est une des rares pratiques qui donne de la place à ça. Quand on est dans des pratiques de psychologie positive, d'hypnose, tout un tas d'autres choses qui sont très intéressantes, souvent c'est très vite orienté positif, orienté solution, orienté comment ce sera quand ce sera formidable. L'EFT, c'est vraiment intéressant pour aller tapoter sur ce qui nous dérange, hein. Donc la peur en elle-même, si elle est limitante, et puis tout ce qui se passe. Alors vraiment là, je crois qu'on non, on n'ancre pas du négatif dans le cerveau. Bien au contraire, on libère, on nettoie. Et ensuite, on peut aller par de la suggestion, des phrases positives ou autres, redonner de l'information à notre système qui est beaucoup plus appropriée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons Adi qui nous demande si on peut changer le message en fonction de cette situation. Alors, c'est même pas on peut changer le message, c'est on doit, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, les rondes que j'ai proposées sont des rondes très générales sur des choses qui reviennent souvent. Là où ça va fonctionner pour vous, c'est quand vous tapotez sur ce qui se passe en vous. C'est quelque chose qui peut être absolument personnalisé et ça doit être personnalisé. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite?
Je
le prends. Hein. Donc, je me demandais si les formulations sur le ressenti négatif ne renforçaient pas la panique. Comment équilibrer les formulations? Donc, ça, j'ai répondu. Hein. Et je réponds, non, ça ne renforce pas le négatif. Ça nettoie, ça libère. Ça sert à ça.
À condition de faire les stimulations en même temps. Ouais.
Voilà, eh oui, évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment dès que vous pensez à des choses on va appeler ça négatif puisque c'est plus simple pour tout le monde, et que ça vous crée une manifestation physiologique qui vous dérange, qui vous oppresse, qui vous limite, ou tapoter en les verbalisant. Et c'est comme ça que ça fait de l'espace, que ça apaise le système. Alors, en fait, c'est une exposition. Non, c'est vraiment important ce truc parce que c'est une exposition. Moi, je donne souvent l'exemple, je vais le donner là, tiens. Je donne souvent l'exemple des chevaux, puisque je travaillais avec les animaux et que les chevaux ont peur de plein de choses. Donc, quand j'amène, pour qu'un cheval, pour que sa peur de monter dans un camion descende, je ne peux pas faire autrement que de l'exposer au camion. Donc, je le mets devant, ça lui fait peur, et à ce moment-là, avec ma voix et avec mes mains, bon, avant, je ne connaissais pas l'EFT, mais enfin, c'est quand même, il y a des points communs, ça apaise. Donc, le camion, pour lui, c'est négatif, hein, il veut pas le voir. Et en même temps qu'il est exposé, on tapote. Je crois que c'est vraiment le fonctionnement de l'EFT. Alors, les points d'urgence, bien sûr, je découvre. Hein. Quels sont les autres points d'urgence que l'on peut faire? Alors, un autre point d'urgence, il s'appelle gros intestin 4. Il est entre l'index et le pouce, sur nos deux mains. C'est un petit muscle. Et avec une pression plus ou moins forte, n'allez pas vous faire mal, ce point-là est un point d'urgence que je pratique souvent, que je recommande souvent et qui fonctionne bien. Donc, il est relié au gros intestin. Et il favoriserait, suivant certaines études aussi, une sécrétion d'ocytocine qui est quand même une hormone plutôt de bien-être. Donc, par contre, à ne pas faire sur les femmes enceintes, puisque il déclenche, c'est aussi l'hormone qui déclenche les contractions. Mais bon, une pression sur gros intestin 4 peut être un super point d'urgence.
Oui, plutôt à éviter sur les femmes enceintes, pour les femmes enceintes.
Voilà, exactement.
Alors, il y a pseudo Juliette qui a répété plusieurs fois dans le chat, j'aimerais bien pouvoir noter les phrases que vous dites en tapotant sur chaque point. Elle l'a posté 5 ou 6, voire davantage dans le chat. Donc je vais me permettre de répondre à cette question-là. Mm-hmm. La conférence, toutes les conférences sont réécoutables pendant 24 heures et même plus puisqu'on les enlève le lendemain à minuit. Donc, si vous voulez tranquillement reprendre la conférence, noter les phrases qui sont dites par les conférenciers, etc., prenez votre temps, réécoutez la conférence, vous pouvez mettre sur pause et vous notez ce qui vous intéresse. À savoir que tout de même, ces conférences sont mises en réécoute par Bertrand dès que la conférence est terminée. Donc, il faut lui laisser le temps de faire la manipulation, qui est une manipulation manuelle, et nous ne sommes pas des robots. Et la réécoute se fera sur la même page, c'est-à-dire ici. Si vous restez à la page, dans une heure ou deux, vous rafraîchissez la page et vous avez le lecteur de réécoute. Je ne sais pas combien de temps il faudra à Bertrand pour mettre ça. Vous cliquez sur « Rafraîchir la page », vous restez sur cette page-là et vous aurez le lecteur de réécoute.
Et en même temps, on peut préciser que les phrases qu'a proposé Benjamin, bien sûr, était formidable et génial, mais les plus efficaces, ce sera vos phrases par rapport à vraiment votre situation spécifique. Donc, ça peut vous servir de suggestion de base, mais ce qui est important, c'est vraiment ce qui vous passe par la tête.
Mais au départ, voilà.
Focalisez pas trop sur les formulations. Oui. Tu es d'accord avec ça, Benjamin?
Ah, complètement. Ça, il y a que ça qui, enfin, je veux dire, il y a que ça qui fonctionne. Quand on fait le FT de groupe ou quoi, on peut tapoter en même temps que quelqu'un. En fait, on tapote sur une vibration, sur une émotion, sur l'énergie d'une émotion. Donc, c'est les aspects qui déclenchent. Alors, ça doit absolument être personnalisé. Mais comme on retrouve des choses chez beaucoup de gens en commun, la peur, par exemple, de rater son oral, hein, qui, là, je pense que la plupart des étudiants qui stressent en allant passer un oral ont une petite partie en eux qui ont peur d'échouer, ou en tout cas de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Donc là, c'est tout simple. Même si j'ai peur d'échouer, c'est pour ça qu'on peut faire une ronde un peu globale, mais chacun avec son mot aussi. Il y en a qui vont dire raté, il y en a qui vont dire même si j'ai peur de ne pas réussir. Ça paraît fin hein, comme changement, mais c'est chacun avec ses mots, parce que chaque personne, en plus derrière un mot, va avoir sa propre définition. Donc oui, absolument. Alors, je continue avec les questions.
Oui, je t'en prie, Benjamin.
Ouais. Alors, on me demande s'il y a un livre bien détaillé sur les points que vous pouvez m'indiquer. Donc là, je ne peux pas m'empêcher de recommander le petit livre de l'EFT, qui a été coécrit par plusieurs des intervenants en plus de ce congrès, qui coûte 2,99 €, et je crois qu'il est en, il est sur la boutique, enfin en tout cas vous devez le proposer. Hein.
Puis dans la rubrique ressources livres, vous avez tous les livres à notre connaissance qui parlent de FT en français. Donc allez-y, faites un tour là-bas après la conférence.
Surtout pour les gens qui ne connaîtraient pas bien les points et qui voudraient des précisions sur les bases ou sur les points, comment on construit les phrases, comment fonctionne l'EFT.
Vous avez aussi votre kit d'initiation.
Vous avez dans la partie ressources, donc voilà, tout à fait en haut, partie ressources, et vous avez votre kit d'initiation à l'EFT. Les points sont décrits. On vous explique comment on fait les phrases. Avec Marion, on a fait une vidéo et vous nous verrez stimuler ces points avec où ils sont précisément dans le corps, quelle force on les tape, combien de fois on les tape, etc., etc. À toi, Benjamin, la parole.
Alors, quelqu'un me dit, moi, je transpire chaque fois que je parle avec quelqu'un. C'est peut-être une anxiété de parler avec les autres. Point d'interrogation. Ma réponse, la transpiration, c'est un symptôme, donc vraiment une manifestation du corps, effectivement en lien avec l'activation de la branche de notre système nerveux qui est reliée avec le stress. Donc, il y a un stress. Là, la personne me dit, c'est peut-être une anxiété. Voilà, c'est ces mots. Je pense qu'effectivement, on est dans la peur, on est dans le stress. Évidemment, ça peut être un sujet qui peut être traité avec l'EFT et qui peut être accompagné avec l'EFT, tout à fait. Alors, quelqu'un me dit, lorsque je parle avec une personne, je n'ai pas de problème à m'exprimer. Cependant, lorsque je suis dans un groupe de 3 ou 4 ou plus, j'ai du mal à prendre la parole et à m'exprimer. Comment puis-je gérer cette situation avec l'EFT ? Alors, là, c'est un exemple et c'est comme ça pour moi que les choses sont les plus parlantes. Comment on gérerait cette situation avec l'EFT ? Moi, je commencerais par faire une ronde générale qui dirait, bah même si j'ai du mal à prendre la parole et à m'exprimer, quand je suis dans un groupe de 3 ou 4 ou plus, je m'accepte comme je suis, je m'accepte du mieux que je peux. Et puis de tapoter sur chacun des points en connectant avec cette difficulté à prendre la parole dans un petit groupe de 3 ou 4. Ensuite, bien sûr, avec du questionnement, aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi, d'où ça vient, et nettoyer les souches, hein, nettoyer les racines de ça. Pourquoi cette personne n'est pas à l'aise finalement quand il y a un petit peu plus de gens. Mais c'est le même fonctionnement, c'est vraiment le cœur de notre thème ce soir. Hein. Ensuite, nous avons une comédienne. Ça c'est très intéressant puisqu'elle parle du coup de son entrée sur scène. Et elle dit « Quand je rentre sur scène, je me sens un peu vide et il me faut un certain temps pour me sentir bien dans mon personnage. Ensuite, c'est un grand moment de bonheur. Qu'est-ce que vous me conseillez pour entrer tout de suite consciente et non dans le vide ? Qu'est-ce que je conseille ? Je conseille d'essayer l'EFT pour tapoter là-dessus. Voilà. Elle me dit quoi ? Je me sens un peu vide et il me faut un certain temps pour me sentir bien. Ben moi, je tapoterai. On commence avec le point karaté. Même si je me sens un peu vide et qu'il me faut un certain temps pour me sentir bien, je m'accepte comme je suis. Et puis, tapoter sur ce qui se passe dans son champ de pensée. Qu'est-ce qu'elle se dit ? Je répète parce que c'est tellement important que ces trois plans de l'EFT soient compris par nos auditeurs. Qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce que je me raconte ? Qu'est-ce que ma tête me raconte ? Où est-ce que je le sens, ce vide ? Hein ? Où est-ce que je le sens, ce vide ? Et qu'est-ce que c'est comme émotion qui fait que je me sens un peu vide ? Donc, c'est des questions à se poser. C'est tourner la caméra à l'intérieur, découvrir ce qui se passe dans notre système pour pouvoir tapoter dessus. Ensuite, je voudrais rajouter des choses par rapport à cette question. Et il y a, dans les 13 autres conférences, il y a pas mal d'intervenants qui font des liens entre l'EFT et d'autres techniques. Notamment, par exemple, la technique de la méditation. Alors, moi, donc, tu as fait une petite erreur, Noël, quand tu as présenté mon bonus. C'est plutôt une hypno-relaxation. Moi, je propose l'hypnose dans le bonus. Mais la méditation, alors il y a des points communs, ceci dit. La méditation, elle me parle de... elle me dit, je voudrais rentrer tout de suite consciente. Et ben, par exemple, la méditation de pleine conscience, le fait de peut être un vrai complément pour ça. Et moi, j'aime bien aussi coupler les techniques qui ont un peu les mêmes valeurs et qui travaillent toutes sur notre système, sur notre cerveau, sur notre système nerveux et sur l'énergie. Donc, EFT et pratique de la pleine conscience me semblerait être de bons conseils puisque ça demande des conseils. Alors. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Pourquoi la peur de l'oral à un examen vous laisse sans voix, alors que vous connaissez les réponses aux questions posées? Alors, pourquoi? C'est tout à fait simple hein, au niveau théorique. Hein. Parfois un peu moins à pratiquer, ça je veux bien vous l'accorder. C'est parce que ce n'est pas les mêmes zones du cerveau et du corps du coup qui sont mobilisées. Vous connaissez, vous avez la connaissance aux questions quand vous êtes dans un état normal. C'est-à-dire que votre mémoire, votre accès à cette mémoire récente, puisque c'est des choses que vous avez apprises récemment, se fait quand vous êtes dans un état normal. On pourrait dire détendu, mais il ne s'agit pas forcément de l'état de relaxation profonde. Quand vous êtes dans un état de stress, vous n'avez pas du tout le même accès, puisque vos ressources intérieures, votre énergie est mobilisée à un niveau archaïque pour pouvoir fuir, se battre ou se paralyser. Donc elle n'est pas à réfléchir en fait. Votre énergie n'est pas disponible pour réfléchir, pour prendre du recul, pour vous souvenir, pour laisser venir l'information clairement. Donc ça, c'est l'explication au niveau théorique. Maintenant, on me demande, est-ce possible d'obtenir un résultat positif? Oui, oui, oui et re-oui. L'idée, je me répète un petit peu parce que ça a été quand même développé dans la conférence, mais ça ne va pas être de neutraliser ce stress, de neutraliser cette peur, ça va être simplement de pouvoir faire varier un peu l'intensité pour qu'il y ait à la fois, si vous voulez, l'énergie partout dans votre corps prête à agir, surtout que dans une prestation orale, souvent on bouge aussi, on parle avec le corps, on parle avec les mains. Mais que vous soyez suffisamment calme à l'intérieur pour pouvoir accéder, pour pouvoir avoir un accès à vos connaissances. Voilà. Et puis, si c'est votre symptôme, puisqu'il me dit un examen me laisse sans voix, en EFT, vous tapoterez. Et même si j'ai peur d'être sans voix au moment de mon examen, et que du coup, je panique et j'ai peur de rater mon truc, je m'accepte comme je suis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
J'ai une question pour toi, Benjamin. Oui. Il y a Christine Laurent qui demande « Bonsoir, n'est-il pas dangereux de pratiquer l'EFT tout seul s'il y a des remontées venant de l'inconscient ?» Merci.
Moi, je pense pas que ce soit dangereux, vraiment. Après, la question est vraiment pertinente. Ce qui fait souvent remonter, ça va être, dans mon expérience, je parle de mon expérience, hein, ça va être des questions d'un thérapeute, ce qui se crée. Quand on tapote sur soi, enfin moi ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais entendu ce genre de témoignage, donc si je me base que sur mon expérience, je vais répondre non. Mais je mets des guillemets parce que peut-être que quelqu'un me dira, ben moi j'ai une fois, j'ai fait de l'accès tout seul et j'ai des choses qui sont remontées. Ceci dit, si des choses remontent à votre subconscient, quand vous êtes en train de faire l'EFT, je ne vois pas non plus en quoi c'est vraiment dangereux, ça vous donne de l'information pour peut-être aller après travailler ça avec un praticien. C'est pas dangereux d'avoir une remontée d'émotions par rapport à, même si c'est un trauma ou quoi, si vous avez une haute intensité d'émotions, ben, accueillez, et puis gardez ça, notez-le quelque part, et gardez ça pour aller ensuite creuser le dossier avec quelqu'un. Hein. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Oui, pour appuyer ce que tu dis, je pense que faire de l'EFT tout seul n'est pas plus dangereux que de regarder un film trash à la télé ou de regarder certaines informations avec des images vraiment violentes hein, qui peuvent aussi faire remonter des choses en soi. Moi, je n'ai pas entendu parler qu'il y ait des gens qui se soient vraiment retrouvés dans des grandes difficultés en travaillant à l'EFT tout seul. Il peut y avoir des remontées, il peut y avoir des connexions qui se font entre ce que je vis aujourd'hui et ce que j'ai vécu comme trauma dans le passé. Oui, il y a des ponts qui vont se faire. Il y a des choses qu'on avait bien cachées dans des placards qui peuvent ressurgir. Mais de toute manière, je pense que bien caché dans un placard, ça ressurgit un jour ou l'autre. Voilà. Je ne pense pas que ce soit dangereux de pratiquer l'EFT tout seul. Ça, je ne le crois pas une minute.
Ouais, donc on est d'accord. Hein.
Oui.
Alors, donc ensuite, j'en ai une qui me demande, qu'en est-il de la peur de réussir? Eh bien, c'est très intéressant et j'ai envie de lui poser la même question. Du coup, qu'en est-il de la peur de réussir hein? chaque peur chez chacun, il y a des choses derrière. Alors, c'est quoi cette peur de réussir? C'est la peur de réussir quoi, hein? Et qu'est-ce qui se passe si je réussis? Ça voudrait dire qu'au niveau inconscient, il y a un danger dans le fait de réussir. Et bien sûr qu'il y a un danger parce que vous sortez de votre zone de confort quoi qu'il arrive. Vous réussissez un examen, vous êtes promu, vous avez votre poste, vous avez votre examen, vous rentrez à la fac, vous rentrez dans une école et autres. Donc, c'est tout le temps un petit risque. Votre vie change, donc c'est tout le temps un petit risque. Et il y a la peur dans le système nerveux de réussir. Oui, alors cette peur de réussir, comme la peur d'échouer, elle est quand même très intéressante parce que c'est vrai que je n'ai pas évoqué une seule fois la peur de réussir. Bon, on peut tapoter dessus, même si j'ai peur de réussir, que j'ai peur que ma vie se devienne formidable en réussissant ce truc, et en arrivant à faire ma prestation orale, je m'accepte, hein, voilà. Même si j'ai peur de réussir ma conférence et de recevoir beaucoup trop de rendez-vous que je ne pourrais donner, je m'accepte comme je suis. Voilà, vraiment, détendez-vous avec la peur de réussir, comme avec la peur d'échouer, puisque ce ne sont que des étapes de notre vie, et si elles arrivent, ma foi, peut-être qu'elles ont une raison d'arriver. Alors, ah oui, donc là, il y a quelqu'un.
Benjamin, et je suis sûre que tu seras d'accord avec moi, c'est que l'EFT est vraiment un outil merveilleux pour combattre la peur, en faire une amie, en faire une alliée, l'apaiser, la diminuer. J'ai été phobique, claustrophobique pour dire de quoi je souffrais. J'avais vraiment de grandes peurs. D'être enfermé dans des espaces clos, petits, et les gens qui sont phobiques ont un système d'alarme qui est très très sensible à la peur. Et donc j'avais peur de parler en public, j'avais peur de pas parler en public, j'avais peur de ceci, cela. Et je peux vraiment témoigner que l'EFT a transformé littéralement ma vie. Et de tout ce que j'ai pu travailler en EFT, je crois que la peur, c'est vraiment l'émotion qui réagit le plus simplement, et c'était incroyablement efficace, l'EFT, sur toutes mes peurs.
Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Les points communs que je fais avec les séances d'EFT sont très proches de mon travail avec les chevaux, où finalement, je travaille beaucoup sur la peur. Et donc, je parle des chevaux comme ça peut paraître vraiment décalé, mais en fait, non, parce que eux, ils ont vraiment un système limbique et reptilien très fort. Il y a quasiment pas, enfin, il n'y a pas même d'esprit conscient comme nous. Donc, c'est que des réactions émotionnelles. Et ça bouge quand on fait les choses correctement. Et les ingrédients qu'il y a dans l'EFT, en tapotant sur le corps, puisque c'est notre corps qui réagit. Donc là, c'est très, très puissant et ça peut aller très vite. J'ai souvenir même de certaines phobies qui sont passées très très vite. Et dans les coachings de groupe pour les prises de parole, les gens passent une fois, sont dans une activation assez haute au niveau intensité, tapotent un peu et fou, ça descend immédiatement. Votre corps réagit tout de suite. C'est comme un message qui apaise le corps. Donc quand on fait ça, c'est pour ça que là, c'est vrai qu'il y a encore la question du danger. Quand on apaise notre système nerveux, je vois pas. Ça va peut-être apaiser les blocages qui peuvent laisser donc terrer des vieux traumas et du coup effectivement nous permettre d'avoir des vagues émotionnelles de circuler. Mais je vois pas en quoi c'est dangereux. Même si, ouais, vraiment, vraiment. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, il y a quand même quelqu'un qui s'étonne qu'on améliore les choses en répétant des phrases négatives. Alors, c'est vrai que les gens qui découvrent l'EFT, je veux bien entendre que ça leur paraisse bizarre. Surtout, elle parle de la PNL, elle dit « N'est-ce pas opposé à la PNL, à une programmation positive du mental ?» Ouais. Moi, je vais vous dire, c'est ce qui m'a séduit dans l'EFT. J'ai tellement appris toutes ces techniques positives, d'accompagnement. Alors, vous allez mal, ok. Alors, imaginez que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais attendez, je vais mal, là, hein. J'ai peur. Oui, alors imaginez que vous n'avez plus peur. Non, mais j'ai peur. Alors, ok. Et alors, en EFT, même si j'ai peur, parce que c'est ce qui se passe. Il y a la pleine conscience aussi qui a cette vertu de vraiment accepter tout ce qui est comme c'est maintenant. C'est ni positif ni négatif, c'est. Et ça aussi, je sais qu'on en parle beaucoup du positif et du négatif. Moi, j'aime pas trop. C'est comme ça. C'est comme ça, tout de suite. Et c'est pas parce que c'est pas parce que j'accepte ce qui est que je m'y résigne. Donc, même si j'ai peur tout de suite, je m'ouvre à la possibilité d'aller mieux, de me sentir plus en sécurité, de faire avec ma peur. Vous voyez l'état d'esprit?
Ouais. Et surtout que les gens n'hésitent pas à télécharger le petit livre qui se trouve dans ressources et le kit de démarrage, le kit d'initiation à l'EFT, parce que tout ça, ce sont des questions qui reviennent tous les soirs à chaque conférence. les gens qui ne connaissent pas l'EFT sont très étonnés de cette façon-là. Négatif, donc surtout allez bien regarder là-bas, il y a toutes les réponses aux questions que vous posez et même des réponses aux questions que vous ne posez pas.
Alors, je crois qu'il ne reste pas longtemps, mais je voudrais bien encore faire une ou deux questions. Il y en a quelqu'un qui me parle de la. Tu me dis quand c'est fini. Hein.
C'est proche.
Ok, donc il y a quelqu'un qui me dit j'ai très peur de parler devant les autres parce que j'ai très honte de ce que je suis depuis l'enfance et les autres ressentent fortement mes gènes. Exploite à fond ce manque total de confiance pour m'humilier dès que l'occasion se présente. Alors, comment utiliser l'EFT pour guérir cette honte? Voici sa question. Moi, quand je reçois un message comme ça, pour moi, ça connecte directement avec un besoin de thérapie, je suis franc. Hein. C'est-à-dire que là, il y a des thèmes qui sont très costauds, ça parle de depuis l'enfance. Donc, ce n'est pas trois tapotements qui vont vous transformer votre honte en pleine confiance, en pleine assurance. Je crois que c'est important de remettre du réalisme là-dedans. La honte, c'est un sentiment très fort, je l'ai dit aussi dans la conférence, qui bloque pas mal de choses. Il y a l'humiliation. Quand j'entends les autres exploitent ce manque de confiance, il y a de la toxicité dans les relations. Waouh, il y a beaucoup de sujets là-dedans. Hein. Par contre, oui, en travaillant en EFT là-dessus, en séance, là pour le coup, j'invite cette personne, si la technique lui parle et si elle peut trouver un bon praticien autour de chez elle, à aller consulter. Alors, il y a des questions qui sont déjà revenues.
Oui, c'est pareil, il y a le pseudo Rien que pour toi 16 qui dit « Depuis des années, j'ai une peur d'être trahi suite à plusieurs expériences. Comment utiliser l'EFT ?» Ça, c'est pour nettoyer ses
traumas.
Tous ces traumas. Effectivement, ça peut être bien de faire quelques séances.
Ah oui, parce que là, c'est la blessure de trahison. Hein, donc, si vous voulez, oui. La blessure de trahison, du coup, elle peut être connectée avec notre thème, qui est la prise de parole en public, mais elle peut aussi être complètement déconnectée. C'est pour ça que je l'avais pas soulevée, celle-ci, parce qu'elle me paraissait être un peu loin. Mais là, c'est du trauma. Une trahison, c'est un trauma. Hop, une personne nous a trahi. On a engrammé une croyance, on a engrammé un message vis-à-vis de ça. Ça doit être nettoyé. Et comme c'est des choses qui sont fortes, singulières et propres à la personne, là, je pense que vous êtes d'accord avec moi que ça se travaille à deux, ça se travaille avec quelqu'un qui accompagne. Hein.
C'est comme, est-ce qu'on peut traiter les traumatismes graves comme les viols, guerres, etc. avec l'EFT? Oui, si la personne avec qui vous travaillez l'EFT a une formation en psychothérapie et sait accompagner ce type de traumatisme. Les addictions, pareil, il y a une conférence qui a été donnée l'année dernière par Gaëtan sur les addictions. J'ai vu plusieurs choses, est-ce que ça peut faire pour ceci, pour cela. Alors pour certains sujets, les addictions, on a des conférences là-dessus des années précédentes, mais généralement, oui, on peut traiter les addictions avec l'EFT.
Voilà Benjamin, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Une dernière question,
une petite dernière parce que je la trouve très importante, je viens de la voir, elle a sauté à mon regard. Quelqu'un dit j'ai toujours la difficulté à dire je m'aime et je m'accepte, j'ai l'impression de me fourvoyer. Alors je la comprends complètement, au début moi c'était pareil et c'est pour ça que j'aimais pas trop l'EFT avant de vraiment la rencontrer par l'expérience. Je donne juste deux petits exemples de phrases que j'aime bien et que j'utilise très souvent en cabinet. C'est à la place de je m'aime et je m'accepte, c'est de dire je m'accepte du mieux que je peux. Et l'autre, c'est « je m'ouvre à la possibilité de m'accepter un jour, de m'accepter, je m'ouvre à la possibilité ». Voilà. Même si je ne m'accepte pas et que je ne m'aime pas et que j'ai du mal à dire cette phrase, « je m'ouvre à la possibilité de ». Voilà. Et « je m'accepte du mieux que je peux », c'est très bien aussi. Voilà. Donc voilà, c'était la dernière question à laquelle je voulais répondre.
Merci infiniment pour les gens qui auraient encore des questions pour Benjamin. Au moment de la réécoute, dans quelques heures, on ne sait pas en fait.
Oui, voilà, très prochainement, bientôt.
Dans quelques temps.
Dans cette même page.
Vous revenez sur cette page. Il y aura à la place du chat une partie commentaires. Vous pouvez laisser vos commentaires et Benjamin se fera un plaisir de revenir pour vous y répondre quand il aura un peu de temps. C'est les questions que vous les posez par écrit, Benjamin vous répondra par écrit. Dans la mesure du possible, bien entendu.
Et on va mettre dans le chat le site de Benjamin.
On a oublié le site de Benjamin.
Voilà.
Benjamin, ton site, tu peux nous le dire, s'il te plaît?
Alors, moi, c'est www.hypnoénergétique.fr. Et est-ce que je peux juste rajouter un tout petit mot?
Oui.
Qui concerne le bonus. C'est qu'il y a une personne qui dit comment on crée du positif pour éloigner les idées noires. Alors, une fois qu'on a nettoyé un peu en EFT, beaucoup, dans mon petit bonus qui est une hypnorelaxation, il y a des suggestions justement, là pour le coup, qui vont nourrir le subconscient pour aller vers ce qu'on souhaite, tout en relaxant un peu plus profondément le corps. Donc moi j'utilise ou Matrix Reimprinting, qui est une technique de psy énergétique qui à un moment donné apporte vraiment du positif, ou alors dans l'EFT classique on peut le faire, et sinon avec l'hypnose en ce qui me concerne. Voilà, tout simplement.
Merci Benjamin. Je vais répéter ton site internet. Il nous arrive d'avoir des personnes malvoyantes qui nous écoutent, donc je vais l'épeler. Ton site c'est www.hypnoenergetique.fr. hypnoenergetique.fr.
Voilà, parfait.
Merci infiniment pour ta participation, Benjamin.
Merci à tous. Pour moi, c'est pareil. Je vous remercie infiniment pour votre accueil, pour toute cette super ambiance. Tout ce que vous faites, et je remercie aussi ben, tous les gens qui ont écouté pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce domaine. Voilà.
À ce domaine, n'hésitez pas à pratiquer l'EFT, à l'essayer. On est là pour ça. Notre intention de ce congrès, c'est d'amener l'EFT au plus grand nombre. Il y a des milliers de questions à chaque fois. Est-ce qu'on peut faire de l'EFT pour l'addiction? Est-ce qu'on peut faire de l'EFT pour ça? Est-ce que c'est dangereux? Tout ça, tout ça.
Il y a beaucoup de sujets qui ont été traités depuis les 6 ans de l'existence du congrès vers l'EFT.
On n'a pas pu faire tout. Hein.
Essayez-le.
Oui.
Posez des questions. Participez. Écoutez les différentes conférences parce que c'était un grand bonheur d'ouvrir ce congrès avec toi, Benjamin. Mais vous trouverez aussi plein de réponses auprès des 13 autres conférenciers qui sont à venir. Benjamin, tu travailles à Paris, c'est ça?
Oui, je travaille à Paris, exact, dans le sud de Paris, dans le 13e arrondissement, et par Skype également.
Par Skype.
Voilà, je travaille par Skype.
Par Skype, tu es sur Paris, tu as un site internet, si les gens veulent prendre contact avec toi, tu travailles aussi avec des chevaux, tout ça, que les gens... Viens à toi.
Donc, il y a des chevaux qui veulent te connecter, qui veulent te contacter, qui sont dans le chat, ils sont les bienvenus aussi.
Avec plaisir.
Merci à tous.
Merci à tous.
On va libérer la salle pour retrouver tout à l'heure la conférence de Noël qui démarrera à 21h. C'est pas dans la même salle d'ailleurs. Retournez sur le programme, cliquez sur le lien de Noël et on se retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne prestation oratoire à Noël.
Et
préparer, ça va bien se passer.
C'est pas évident de passer derrière
ça, Benjamin. Allez, je vous embrasse bien fort.
Merci à tous.
On t'embrasse. À tout de suite.
Au revoir.